Et nous revoilà là pour parler du gagnant d'Angoulême, le Grand Prix de cette année, qui a été attribué à Richard Corben.
Donc, auteur américain dont la sélection au Festival international d'Angoulême de BD est d'autant plus étrange qu'on peut dire qu'il ne fait quand même pas du mainstream.
Ah, ouais. Voilà. En même temps, je te rappelle que Angoulême n'a pas non plus la vocation à faire du mainstream. Ouais. Et que, enfin, c'est en même temps un Américain avec un goût étonnamment français, puisque, enfin, français, dans le sens où il a quand même travaillé sur heavy metal et metal hurlant avec. Des gens comme Druyer ou...
Voilà, il est sûrement plus connu en France qu'aux États-Unis, voilà. Comparativement parlant, effectivement.
Au moins pour la première moitié de sa carrière.
Tout à fait. Donc Richard Corben, c'est l'un des grands noms du comics underground américain. Il a exposé dans les 70, entre autres, avec sa participation à deux grands magazines d'horreur et de fantastique qui étaient édités par un éditeur qui est encore connu aujourd'hui, Warren Publishing. Donc Warren Publishing, entre autres, c'est les gens qui font paraître le magazine Mad. Voilà. Mais qui était aussi les successeurs de la grande tradition de romans d'horreur à la IC Comics.
Donc, voilà, il sort effectivement dès les années 60, dès 1970, il avait déjà 30 ans quand il commence à travailler dans ce milieu.
C'est voilà. Et il a surtout participé à deux grands magazines, donc Eerie et Creepy, hein, qui sont deux grands magazines d'horreur qui paraissent aux États-Unis. Et donc pendant toutes les années 70, hein, il va avoir un certain nombre de succès. Il manifeste déjà son goût pour la liste, donc pour l'écrivain Hélène Edgar Poe. Hein, qui est vraiment un auteur sur lequel il est revenu plusieurs fois dans sa carrière. Hein, il a une fascination comme ça pour le personnage.
Voilà. Pour Edgar Allan Poe et pour la peau des personnages aussi, puisque, soyons clairs, ce n'est pas celui qui a fait le plus pour la vente de fringues.
Voilà. Le début de son succès, en tout cas en France, c'est les quelques planches qu'il va envoyer donc au milieu des années 70, ça doit être 76-77, donc à Metal Hurlant, hein, le magazine qui à l'époque Jean-Pierre Dionnet venait de créer donc en France. Et bien Dionnet, fasciné en fait par la vitalité et l'originalité du monde de Corben, va l'éditer à l'intérieur du magazine Metal Hurlant. Et donc du coup Corben va être connu en France pour la saga de Den, qui est son premier grand succès, hein, de première grande série régulière.
Alors, Metal Hurlant commence aux États-Unis en 77.
Voilà. Donc du coup, donc c'est Heavy Metal, tu parles.
Heavy Metal, oui.
Voilà. Donc du coup, ça doit être 75, je pense, en France. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Den ? Alors Den, c'est une histoire que les proto-geeks de l'époque ont sans doute dû se reconnaître dedans. L'histoire est devenue, je dirais, un gimmick qu'on peut potentiellement retrouver dans n'importe quelle série. C'est effectivement l'otaku de base qui passe son temps dans sa chambre et qui magiquement se retrouve transporté dans un autre monde, une sorte de monde un peu à la Edgar Rice Burroughs, une sorte de fusion avec Princess of Mars et l'univers de Tarzan, et se retrouve incarné le corps d'un mec.
Mais c'est le scénario d'Amethyst Princess of a Gem World. Ah,
exactement. Elle a tout piqué. Voilà. Et donc ce geek de base, hein, qui n'est rien dans son monde original, se retrouve projeté dans ce monde fantastique. Et se retrouve dans la peau d'un guerrier bodybuildé. Et donc du coup, est tout nu aussi, hein, parce que c'est important quand même.
Ouais, parce que le métal, les vêtements, ils transportent pas.
Voilà. Et donc du coup, il se retrouve dans ce monde où effectivement, plus vous êtes tout nu, plus vous êtes puissant a priori. Et donc du coup, il va se retrouver à vivre des aventures sauvages et exotiques et érotiques, hein, puisque effectivement il se trouve que il doit y avoir une gravité étrange sur la planète où il est, puisque toutes les femmes ont des gros seins.
Alors, en même temps, lui il a des gros muscles.
Lui il a des gros muscles, mais il a pas de gros seins. Il a d'autres trucs qui sont gros. Voilà. Donc Corben, c'est vraiment, et la saga Den est une série qui va marquer l'imaginaire, la rétine, je dirais, donc des amateurs de bande dessinée de l'époque, donc avec ces
personnages très sexués.
Très sexués, l'anatomie surdéveloppée et ses couleurs. Qui sont juste flashantes. Enfin, voilà. Vous ne pouviez pas rester, insensible à Corben. Donc du coup, c'est la première grande époque hein, où il va être connu. Donc il va y avoir énormément de choses qui vont être éditées de Corben en France, surtout dans la série Comics USA de l'époque. Et ensuite, Corben va un peu disparaître pour revenir plus beau, plus fort par la bande, je dirais, et surtout par l'édition. Là. Donc le moment où Corben, dessinateur, va travailler avec un scénariste, Azzarello, sur un personnage qui, a priori, n'a rien du tout à voir avec la façon dont Corben dessine. Donc, le personnage de Hellblazer, ou plus connu sous le nom de John Constantine.
Voilà. Alors, il avait commencé, effectivement, déjà à faire, dès vers 97-98, quelques percées chez Vertigo, avec des histoires courtes, etc., notamment pour lancer Flinch, le magazine, où quand même Vertigo voulait tellement lancer le magazine qu'ils ont quand même une histoire de Jim Lee, une de Corben. Et puis voilà, il va y avoir différentes choses et il va effectivement se lancer dans le premier arc d'Hellblazer d'Azzarello, qui à l'époque fait scandale non pas pour son dessinateur mais pour son scénariste, puisque au crime de lèse-majesté on a mis un américain à écrire à Hellblazer, ce qui était la première fois puisqu'il n'y avait eu que des anglais à l'écrire, et qu'en plus du coup pour éviter ce problème il lui fait faire un road trip aux États-Unis. Voilà, déjà effectivement ça a beaucoup fait parler à l'époque. Plus finalement que le fait que les quatre premiers épisodes soient faits par Corben.
Donc, mais il n'empêche que pour Corben, ça lui rend service puisque tout le monde redécouvre qu'il est encore vivant. Voilà.
Et qu'il peut faire plus qu'une short story.
Voilà. Et que du coup, c'est la Marvel hein, qui va lui filer trois contrats qui sont très intéressants puisque du coup, donc c'est des one shot, hein, 4 épisodes, 4 ou 5 épisodes à chaque fois, qui vont porter sur des gros personnages quand même de l'écurie Marvel. Donc il va avoir droit donc au Banner, donc une histoire de transformation de Hulk, voilà, donc pas très intéressant en dehors de où on peut voir les gros muscles de Hulk. Plus intéressant, c'est son Cage, qui graphiquement est une tuerie et qui change complètement le personnage de Luke Cage. Hein, donc, alors maintenant, on a effectivement la série Netflix qui donne une autre vision du personnage, mais dans les années 90, Luke Cage, il n'y avait pas plus années 70. Hein, c'était vraiment un personnage has-been, voilà, de Black Exploitation. Corben va en faire un personnage de rap, et l'histoire est super intéressante. Et finalement, il y a aussi donc The End, donc le Punisher The End, les derniers temps de Frank Castle, plus connu sous le nom de The Punisher, qui faisait partie d'un ensemble de titres de Marvel qui s'appelait tous The End. Hein, donc vous aviez eu Hulk The End, Wolverine The End, X-Men, enfin vous en aviez plein. Vous aviez ce Punisher et pour finir donc Corben, donc ça lui a vraiment permis de se faire de nouveau connaître. Il a pu faire plein de trucs sur Edgar Allan Poe.
Il a aussi fait quelques films de Swamp Thing à l'époque.
Voilà. Dernièrement, ce qui lui a permis effectivement de se faire connaître de nouveau.
Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une carrière assez étonnante. Il a un rythme de production assez lent, ce qui fait qu'on lui a, il n'y avait pas vraiment de travail pour lui dans le rythme américain. Par contre, effectivement, il a été amené à faire des contrats de couverture et quelques histoires courtes par-ci par-là. Mais effectivement, c'est ces histoires-là qui ont complètement marqué sa carrière. Puis, effectivement, ces adaptations pour Edgar Allan Poe qui restent des choses qui vont être dans le patrimoine parce qu'effectivement ça reste intemporel.
Alors l'autre problème quand même sur Corben, hein, si vous ne le connaissiez pas auparavant, que vous avez eu connaissance de son existence par le prix qu'il a eu à Angoulême, le problème c'est que il y a très peu de choses disponibles en français.
Ça devrait augmenter rapidement.
Voilà. Donc vous avez deux éditions de Short Stories, issues du magazine Creepy et autres, aux éditions Delirium. Hein, donc c'est pas non plus la maison d'édition la plus connue en bande dessinée. Donc voilà, vous aurez les mini-séries qu'il a pu faire chez Warren, dans deux albums. qui s'appelle Eric Ripiu, me semble-t-il. Vous aurez chez Panini, donc vous aurez le Cage ainsi que le Punisher The End. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que vous aurez disponible. Et enfin, chez Delcourt, étonnamment, il est arrivé à trouver une entente avec Mike Mignola, alors que pourtant, a priori, ils ont des univers un peu complètement différents. Il a travaillé avec Mike Mignola sur des albums de Hellboy, hein, qui est la grande création de Mignola, qui paraît en ce moment chez Delcourt. Et vous trouverez des travaux de Corben dans les numéros 9, 10, 11, 12, me semble-t-il, de la série Hellboy, paraissant actuellement chez Delcourt.